Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Nous vous aidons à réparer votre véhicule à moindre coût. Claude Audrery est aux commandes du Garage pour tous à Toulouse. Il s'agit d'un garage automobile solidaire. Il permet à la fois aux plus précaires de faire réparer leur voiture et à d'autres de trouver un emploi. C'est un garage impliqué dans l'économie sociale et solidaire. Le Garage pour tous a ouvert ses portes en septembre 2011 dans le quartier des Minimes à Toulouse, grâce notamment au dispositif IRLIS, initiative régionale et locale d'investissement solidaire, qui est gérée aujourd'hui par Toulouse Métropole. Bonjour Claude Audrery.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Merci d'être avec nous, Claude, d'avoir laissé les véhicules au garage pour venir nous parler de cette belle initiative solidaire qu'est le Garage pour tous. Alors, comment est venue l'idée, Claude, d'un Garage pour tous ?
L'idée est venue d'un double constat. Le premier, c'est que des véhicules n'étaient pas forcément bien réparés ou pas réparés du tout par des personnes qui n'avaient pas les moyens de les réparer dans les garages classiques. Donc ça a été le premier constat, de mettre à disposition des outils et une structure pouvant les accueillir. Le deuxième constat était de lutter contre la mécanique sauvage. C'est celle que l'on peut voir au pied des immeubles, sur les parkings, sur les trottoirs, ouais. Avec tous les défauts qui peuvent en découler, à savoir le rejet en caniveau de l'huile, la terreur des stations d'épuration.
Bien sûr, oui.
Les pièces qui sont abandonnées sur les trottoirs ou autres. Les conditions de travail pas forcément idéales et des résultats douteux par certaines fois. Parce que le copain vous fait des plaquettes pour 20 euros et puis elles sont montées à l'envers, on l'a vu. C'est pour lutter contre ce genre de choses que le garage a été créé.
Alors, donc, qu'est-ce que c'est un garage solidaire ?
Alors, le garage solidaire tient sa définition du fait de son statut, qui est une association. La solidarité s'explique par le fait qu'elle est... L'activité est en direction de personnes en difficulté, n'ayant pas les moyens. C'est la solidarité qui joue à ce niveau-là.
Alors, ça veut dire que tout le monde, monsieur X, monsieur Y, madame Intel, ne peut pas aller dans votre garage. Il y a des conditions.
Il y a des conditions. Donc, nous avons un accueil, un filtre, si je puis dire, mais un filtre avec des grosses mailles. On n'est pas strict, parce que les gens qui viennent nous voir ont forcément un besoin.
Ce sont des gens qui sont souvent en difficulté financière.
En difficulté financière et qui ont besoin de leur véhicule, comme tout un chacun aujourd'hui, et qui, de par le fait du coût des réparations dans le réseau normal, ne peuvent pas faire réparer leur voiture, en sachant que, n'ayant pas l'argent pour faire réparer, ils ne passent pas le contrôle technique.
Oui.
Et ne passant pas le contrôle technique, et n'ayant pas la vignette sur le pare-brise, ils ne sont pas assurés, même s'ils ont payé leur cotisation d'assurance. Donc, je vous laisse imaginer les difficultés en cas d'accident, hors carrosserie.
Et tout peut s'enchaîner, oui, tout à fait.
Et après, tout peut s'enchaîner avec des pensions à payer à vie et autres, et ça arrive tous les jours.
Et c'est le garage du cœur, en fait.
Oui, le garage du cœur. Je ne prenais pas cette appellation parce qu'il existe sous cette appellation dans d'autres régions de France.
Ouais.
Donc, nous, c'est le garage pour tous du Grand Toulouse. Situé au minimum.
Alors, qui travaille dans le garage ? Donc vous êtes aux commandes, si je peux m'exprimer ainsi, et vous êtes bénévole.
Alors, aux commandes, si je puis, oui, un peu, mais je ne veux pas empiéter sur l'activité du président, M. Raymond Glaise, qui est à l'initiative et créateur de ce projet.
Qui est un ancien garagiste.
Il était garagiste, mais surtout carrossier, donc ça aide beaucoup quand on crée ce genre de structure. Moi, je le seconde et j'essaie de le remplacer quand il n'est pas là parce qu'il est bénévole comme moi. Lui, il est à temps plein, moi je suis à mi-temps. Et on a une secrétaire également qui est à mi-temps. Pour ce qui est des personnels, comme nous sommes une entreprise d'insertion, nous avons des salariés, à savoir deux salariés diplômés, qui sont à la fois encadrants techniques. Donc, ils vont s'occuper des personnes en insertion.
Oui.
On en a, suivant les contrats qui nous sont octroyés par les collectivités, on a à peu près 4 personnes en insertion. Donc les encadrants techniques s'occupent d'eux dans la mesure où ils ne vont pas être seuls à réparer une voiture.
Parlez-nous justement de ces insertions, de ces chantiers d'insertion que vous avez lancés, c'est-à-dire que vous accueillez des gens qui sont en insertion professionnelle ou reconversion, ou qui les accompagne, comment ça marche ?
Alors, les personnes que nous recevons nous sont adressées par des services, que ce soit Pôle emploi, le PLI ou autre.
Mmh.
Et ce sont des personnes qui sont dans un parcours d'insertion. C'est-à-dire que une personne qui passe dans la rue peut venir demander si elle peut faire un stage ou à la limite oui, mais dans le parcours d'insertion, il faut être quand même accompagné.
Voilà,
de A
à Z.
Il y a une convention, il y a un suivi à notre niveau au niveau du garage. Nous avons une CIP, c'est une conseillère à l'insertion professionnelle,
ouais,
qui est chargée d'accompagner les personnes, de savoir leur avancement dans la maîtrise du travail,
mm-hmm,
et de s'occuper aussi de tous les problèmes annexes, c'est-à-dire le transport, la santé, le logement, et d'organiser des stages qu'on appelle en immersion, c'est-à-dire qu'au cours de leur parcours d'insertion, il y a obligation d'envoyer ces personnes-là dans un garage classique, une quinzaine de jours, pour voir comment ça se passe en réel dans la vie normale d'un garage.
D'accord. Et donc ces personnes ressortent ensuite avec une certification, un diplôme ?
Alors, à notre niveau, on a un livret qui certifie un niveau, si vous voulez.
Ouais.
Nous n'avons pas de certification, mais par le biais du réseau et des garages que l'on connaît, les personnes trouvent un emploi.
Mm-hmm.
Pas forcément dans la mécanique, ça peut être chauffeur-livreur, ça peut être autre chose, mais disons que l'insertion leur a permis de se lever le matin, de venir à l'heure,
bien sûr,
de travailler en équipe, d'écouter et de reprendre un rythme normal horaire.
Oui, de recréer du lien en fait, du lien social.
De recréer du lien social à travers l'équipe du garage, parce que bon, on ne vit pas dans les bureaux, hein. Moi, pour ma part, je suis dans le garage, à demander si ça va bien, si ça se passe bien, s'ils ont besoin d'un conseil, si... de faire en sorte qu'ils ne soient pas seuls, parce que les problématiques des personnes font que des fois, bon, quand ils arrivent, ils sont renfermés sur eux-mêmes, ils ne parlent pas.
Mmh.
Donc il faut arriver quand même à mettre un peu d'ambiance, quoi.
Alors justement, parlons de vous, Monsieur Drury. Vous êtes donc aujourd'hui bénévole, vous êtes à la retraite, mais encore très actif. Quel est votre parcours ? Vous êtes un passionné d'automobile ? Vous étiez garagiste ?
Alors mon parcours est un peu diversifié au cours de ma vie. J'ai d'abord été technicien bureau d'études dans l'entreprise de mécanique.
Mm-hmm. Donc déjà dans la mécanique automobile.
Déjà dans la mécanique, mais la mécanique industrielle.
D'accord.
Mais ça n'empêche pas que depuis que je suis sorti du berceau, j'ai eu une collection de petites voitures qui m'a quand même marqué. La preuve, c'est que je suis arrivé aux grandes voitures, aux vraies, aux réelles, celles qui roulent. Et bon, au bout de 20 ans de bureau d'études, les circonstances ont fait que j'ai dû changer de métier. Et là, j'ai repris une entreprise de préparation de voitures neuves et occasion pour, mmh, les concessionnaires.
D'accord.
J'ai fait cette activité pendant 10 ans. Et après, bon, mais j'ai changé, je me suis mis à mon compte personnel, si je puis dire, pour faire du conseil en création d'entreprise, dans la mesure où je connaissais bien les deux côtés de l'entreprise.
Ouais,
à
ouais,
la fois
ouais,
la création et à la fois le fonctionnement au quotidien, surtout quand on est seul aux commandes.
D'accord. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, d'avoir ce double regard ? Mais aujourd'hui,
ça m'apporte à la fois un recul par rapport à l'entreprise, parce que je n'ai pas même si j'ai un engagement moral, c'est-à-dire qu'il faut être présent et faire ce que l'on fait de bonne qualité. Ce qui m'a libéré un peu, c'est que je n'ai pas la contrainte financière journalière d'une entreprise, où quand on se lève le matin, on sait qu'il va sortir 1 000 euros, 1 500 euros, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il est salarié ou qu'il ne soit pas. Donc j'ai cette contrainte-là en moins. Mais il faut dire quand même qu'au niveau de la structure Garage pour tous, c'est une association, mais qui n'a que le nom au niveau statut juridique. C'est une entreprise à faire fonctionner
bien
au quotidien.
Sûr, bien
c'est
sûr.
Pas, j'ai rien contre d'autres associations qui sont dans la culture ou autre, mais où il y a moins de responsabilités, si vous voulez, au niveau du travail.
Tout à fait. Et vous avez une responsabilité sur un plan sécurité, puisque vous devez remettre en sécurité les véhicules. Et vous avez également des coûts, des frais, puisque vous devez acheter des pièces. Comment ça fonctionne ?
Alors, on a une responsabilité évidente, parce qu'une voiture arrive en panne, elle doit ressortir réparée,
ouais,
avec une garantie et une responsabilité. Bon, c'est la RCP, la responsabilité civile professionnelle. Personne n'est à l'abri d'une erreur, que ce soit nous ou les garages classiques ou quelque que soit l'activité.
Mmh.
Après, les coûts, c'est sûr qu'il y a les pièces à acheter, mais nous avons quand même un partenariat avec des fournisseurs de pièces neuves, qui font bénéficier aux adhérents d'une remise variant entre 25 et 40%.
D'accord, qui jouent le jeu en fait.
C'est pas négligeable, ils jouent le jeu, bon, on les a sensibilisés évidemment, hein. Bon, c'est intéressant pour eux côté financier, c'est intéressant pour nous parce que d'abord ils sont proches, ce qui permet de changer les pièces si elles ne sont pas bonnes, ça peut arriver hein, parce qu'il y a beaucoup de références et de modèles. Et c'est intéressant pour les adhérents qui bénéficient d'une remise qu'ils n'auraient pas dans le système classique actuel.
Oui, d'accord. Vous travaillez également avec des casses automobiles pour récupérer des pièces. Vous avez des partenariats?
Alors on fournit à chaque adhérent une liste de casses automobiles existantes et on a un partenariat avec une... Plus particulièrement avec une casse, je peux dire le nom, c'est Sud-Ouest Auto, qui accorde 10% de remise aux personnes qui vont chercher des pièces. Mais des pièces qui ne sont pas des pièces de sécurité. Ça peut
D'accord.
être un alternateur, un démarreur, un phare, des pièces de carrosserie, disons tout ce qui n'est pas lié à la sécurité. Et enfin, en sachant quand même que depuis le 1er janvier 2017, les garages, surtout en carrosserie, doivent proposer un devis avec des pièces de récupération. Dite d'économie circulaire.
Oui, tout à fait.
Donc nous, on est déjà dans le circulaire par notre naissance et notre existence.
Vous êtes sur de la mécanique d'entretien ou vous êtes sur des grosses réparations? Imaginons, quelqu'un arrive avec une voiture sans moteur, un gros, gros problème moteur, qu'est-ce que vous faites?
Alors si elle arrive sans moteur, donc elle arrive sur une dépanneuse, mais ça nous arrive aussi. Donc on est surtout dans la mécanique d'entretien, c'est-à-dire la mécanique qui permet aux voitures de passer le contrôle technique. Et d'en sortir avec la petite vignette au pare-brise, c'est-à-dire d'avoir réparé les éléments de sécurité nécessaires.
Oui, oui.
C'est-à-dire que s'il y a que les freins arrière à changer, on ne va pas changer aussi les freins avant. Disons qu'on se limite, bon, c'est l'aspect financier qui est pris en compte également. Hein. Donc on se limite aux réparations obligatoires de sécurité pour que le contrôle technique soit passé de façon satisfaisante. Donc ça, c'est la mécanique d'entretien. Un peu plus quand même, parce qu'au-delà de changer les freins, les plaquettes, les biellettes, les cardans, les échappements, bon, ce sont des termes qui peut-être ne parlent pas aux auditeurs,
Si,
mais aux auditrices,
bien
bon, j'en
sûr,
suis
oui, si,
convaincu,
tout à fait.
tout le monde sait tout, tout le
Il
monde sait tourner la clé, j'en suis sûr, mais après c'est
n'y a
peut-être
plus de
un
clé,
peu
hein, maintenant.
différent. Il n'y a plus de clé, c'est encore un problème, mais enfin, ça sera peut-être la fin de notre existence.
On va en reparler dans un instant, oui.
Mais disons que mécanique d'entretien est la mécanique un peu plus lourde, disons, dans la mesure où on fait la distribution, c'est-à-dire la
Ah
courroie de
oui.
distribution, les
Qui est
joints
un
de...
élément de sécurité, on est
qui
d'accord.
est un élément de
Et...
sécurité, oui, à entretenir, parce que quand ça casse, le moteur en souffre
Voilà,
et
ouais.
la facture est lourde. Les joints de culasse, ça arrive, la voiture chauffe, donc il faut changer les joints de culasse. Et les embrayages qui fatiguent, ce sont des pièces d'usure. Donc c'est les parties, la mécanique la plus lourde. Mais le quotidien, bon, c'est la vidange, comme j'ai dit, les freins, les échappements, les biellettes, les rotules, tout ce qui est pièces d'usure normales.
Merci Claude, vous restez avec nous. On se retrouve tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec Claude Audrerie du Garage pour tous à Toulouse. Bonjour Jean-Marie Fehrenbach.
Bonjour Doris.
Ravi de vous accueillir Jean-Marie, vous êtes un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Première question Jean-Marie à notre invité.
Bon, je dois vous dire d'abord que j'ai été très impressionné par le fait que vous êtes dans un monde où on offre deux types de prestations. D'une part, vous offrez une prestation à des personnes qui ont des besoins physiques sur un véhicule et qu'il faut satisfaire pour des tas de raisons, hein, tout le monde l'a bien compris. Et puis en même temps, ben, vous assurez une prestation au profit de la société. Donc je trouve que c'est assez intéressant, assez particulier et assez exceptionnel d'être dans cette double position. Bon, alors pour être plus précis maintenant des questions, parce que ça c'est ma remarque peut-être préliminaire. Première question, ce qu'on peut appeler vos clients, entre guillemets, hein, je pense au titre d'une prestation qualité, on parle toujours des clients, est-ce que ce sont vraiment des clients? Comment viennent-ils chez vous? Sont-ils des abonnés? Comment se passe la relation avec ceux qui viennent et qui demandent à bénéficier de vos services, de vos prestations.
Bien, les clients, comme vous dites, qui viennent chez nous, deviennent immédiatement adhérents puisque nous sommes association. Donc l'adhésion se fait à travers une adhésion qui coûte 50 euros pour les personnes salariées et 25 euros pour les personnes minima sociaux sur prescription. Cette adhésion est valable un an, de jour à jour, pour deux véhicules maximum au même foyer. Donc les gens viennent nous voir parce que, bon, ils ont besoin, évidemment. C'est le bouche à oreille parce qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité, ça fait partie des règles associatives, mais on peut faire de l'information, la preuve aujourd'hui, et les gens écoutent et il y aura des retours comme d'habitude, j'espère. Et les gens donc En plus de la réparation, bon, physique, mécanique, que l'on fait comme un garage classique, il y a quand même un côté lien social, dans la mesure où déjà les personnes peuvent rentrer dans le garage, ce qui n'est pas possible dans d'autres structures. Donc ils peuvent assister aux travaux. Ils peuvent aussi aider dans la mesure où si on a plusieurs formules, hein, soit la mécanique normale, où on fait le travail comme un garage classique, soit la mécanique dite assistée, où la personne est capable de faire 80% du travail. Les 20% restants sont soit du conseil, soit de l'aide physique, parce que démonter une boîte de vitesse, il vaut mieux être deux, sinon les pieds en souffrent. Et la troisième formule, c'est l'autonome. C'est-à-dire la personne sait faire toute seule. C'est très marginal, parce que les voitures sont compliquées aussi. Et puis pour économiser un coût horaire, choisir l'autonome n'est pas forcément bien, parce qu'on passe plus de temps. Et nous, vu la rotation de voitures que l'on a, on ne peut pas mobiliser un pont très longtemps pour une petite réparation. Donc le lien social se situe à ce niveau-là. Et également, bon, les gens peuvent venir en dehors d'une réparation, discuter, voire demander, poser une question. On n'est pas fermé. Le portail est ouvert, l'accueil est ouvert, et on reçoit, on répond aux questions. S'il y a une question, il y a une demande derrière.
Donc vous avez un rôle de formateur, en fait.
Formateur, c'est un grand mot. On est surtout évité d'être des formateurs. En deux mots, mais formateur, oui, enfin, on parle aux personnes. Disons qu'à notre niveau, je parle pour moi et pour les personnes qui sont bénévoles au garage, c'est un peu les acquis de la vie antérieure que l'on met à disposition des personnes, de façon à ne pas laisser les personnes dans l'embarras.
Jean-Marie, notre question.
Et toujours dans ce monde de relations bénéficiaires et prestataires, vous êtes débordé de demandes ou ça se gère dans le temps, on s'abonne, on revient, comment est-ce que vous écoulez le flux, si j'ose dire?
Alors, l'expression est juste, écouler le flux. Nous, il y a une expression qui dit, vous savez, il passe beaucoup d'eau sous les ponts, et moi je dis, il passe beaucoup de voitures sur les ponts. Donc, gérer le flux, ça devient de plus en plus difficile dans la mesure où nous avons de plus en plus d'adhérents, en lien d'ailleurs avec les difficultés liées au quotidien de la société et du coup de certaines choses. Donc, on a de plus en plus d'adhérents. Actuellement, on a 2200 adhérents. Mmh. Bon, pas permanents, il faut le dire, parce que s'ils venaient tous en même temps, ça irait pas.
Oui, vous seriez débordé.
Mais on a à peu près un volant de 500-600 adhérents qui viennent. Et on est sur à peu près 250 adhérents nouveaux par an, presque deux par jour. Ce qui implique des périodes de 15 jours, 3 semaines où on arrête les adhésions carrément. Parce que qui dit adhésion, dit réparation. Mmh. Et comme le planning est déjà bien chargé, c'est pas facile de prendre immédiatement une personne. Il est bien évident qu'une personne qui arrive avec une voiture qui fume, on va pas lui dire venez dans un mois. Donc ce qui explique que la voiture qui est en cours de réparation, sa réparation va être un peu décalée. On l'explique aux adhérents. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, et puis ça peut arriver à tout le monde. Donc on essaie de réparer le plus tôt possible des pannes imprévues.
Est-ce qu'un modèle comme le garage pour tous pourrait être dupliqué? Est-ce que déjà ça pourrait être rentable?
Alors la rentabilité, c'est une chose que beaucoup voudraient, surtout au niveau des collectivités, vu les financements qui
sont modifiés. Vous êtes aidé par Toulouse Métropole.
Nous sommes aidés par Toulouse Métropole, l'État à travers la préfecture, la région. Alors c'est une aide sur le fonctionnement, pas une aide sur l'investissement. Donc on a ces aides-là qui nous permettent d'avoir des tarifs avantageux, différenciés. Et par le fait que les personnes, en dehors des salariés qui sont au garage, il y a des bénévoles. Donc Raymond Glaise qui est président, qui est là au quotidien, moi-même à mi-temps l'après-midi, Chantal, une secrétaire qui est là à mi-temps, donc ça évite des frais, beaucoup. Et alors pour la duplication, il existe des garages, sur Toulouse il y en a deux, qui sont sectorisés parce que les financements sont sur des secteurs. Mmh. Bon, nous si vous voulez on est plutôt sur secteur nord, les Isards, les Minimes et le secteur nord. Notre garage est sur le secteur sud, bon, Papus, le Mirail, disons que c'est sectorisé, et les adhérents vont plutôt un garage qu'un autre, suivant leur lieu d'habitation. Pour la duplication, c'est possible, ça se fait. Il y a beaucoup de personnes qui envisagent de créer ce genre de structure. Il en existe. Nous, on a un réseau national et des personnes qui viennent nous voir pour savoir comment vous avez fait. Donc, on leur évite un peu le parcours du combattant, parce que c'en est un au départ. Il a fallu quand même 2 ans pour mettre le garage sur pied, pour ouvrir, pour mettre tout le monde autour de la table et avoir des financements. Et après, c'est une question de volonté politique, locale, économique, et de trouver des gens compétents, capables de s'investir, en sachant que bon, s'il n'y a pas de bénévolat, la structure aura du mal à fonctionner dans la mesure où les frais seront importants au regard de la tarification horaire qui est avantageuse, mais qui ne permet pas d'être autonome.
Et oui, voilà, et de faire tourner la boutique.
Alors, si je me tourne maintenant du côté des bénéficiaires sociaux, je dirais, hein, de la seconde domaine de prestations que vous... que vous assurez, que vous offrez. Comment ça passe la relation avec, en particulier, les personnels en insertion? Combien de temps reste-t-il chez vous? Quelles sont peut-être des difficultés que vous rencontrez? Est-ce que c'est quelque chose de facile à gérer? Et quelle impression en retirez-vous? Et quel est leur degré de satisfaction à travers le passage chez vous?
Alors, nous sommes entreprise d'insertion, après avoir été chantier d'insertion. Donc ça, c'est au niveau des financements et des obligations. Mais les personnes qui viennent en insertion, déjà, comme j'ai dit précédemment, sont adressées par des entités, disons, dans lesquelles elles ont adhéré pour leur parcours. Après, les personnes, on essaie quand même de les mettre dans une bonne ambiance. C'est parfois un peu difficile dans la mesure où c'est des gens qui sont un peu loin de l'emploi. Loin, éloignés ou qui n'ont pas encore abordé l'emploi, donc c'est un peu difficile. Mais on essaie d'être au quotidien à côté d'eux, et être à leur écoute pour savoir quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils en attendent. Et après, pour la durée des contrats, bon, c'est variable parce que c'est fonction des lois qui varient sur, actuellement. On a des contrats de 6 mois renouvelables, mais il faut quand même justifier beaucoup de choses. Il ne faut pas croire qu'une personne qui rentre le 1er janvier en insertion, au bout de 6 mois, le 1er juin, sera apte à aller rentrer dans un garage classique. Mmh, mmh. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres contraintes à gérer.
C'est du cas par cas, oui.
C'est du cas par cas à gérer. Pour les retours que l'on a, bon, des personnes nous donnent des signes. Après, ils viennent, pas forcément le lendemain, mais 6 mois après, ils passent. Ils disent, oui, heureusement, vous avez existé, parce que j'étais un peu dans la panade, et ça m'a remis le pied à l'étrier, j'ai pu souffler, j'ai appris un peu. Mmh, mmh. Donc, on repart. D'autres personnes n'ont aucune nouvelle. Donc, bon, on espère que pour eux, ça se passe bien.
Et c'est une population qui est jeune, qui a un peu d'expérience, pas du tout. Comment est-ce que vous les percevez au niveau, je dirais, un peu technique, profil
Alors, au niveau des profils, pour les personnes en insertion, on essaie quand même de se faire orienter des personnes qui connaissent un peu la mécanique. Parce que, bon, si on ne sait pas du tout comment on sert un boulot, dans quel sens il faut tourner, ça va être difficile pour les impliquer dans le travail, pour leur expliquer. Et on a quand même des contraintes, nous, au niveau de la sortie qu'on appelle positive, au bout de la fin du contrat d'insertion. Donc si les personnes sont vraiment très éloignées au niveau technique, c'est difficile. Si elles sont très éloignées au niveau du travail, ou qu'elles n'ont jamais travaillé, c'est difficile aussi. Donc il faut jongler au quotidien et essayer de faire avancer les personnes en parlant... En parlant avec les encadrants techniques en dehors de leur présence, savoir un peu ce qu'ils... Et avec eux, savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, comment ça se passe. C'est le facteur humain à gérer, donc ça fait partie du lien social.
Comment est perçu le garage pour tous, Claude, par les autres professionnels? Est-ce que vous êtes des concurrents?
Alors non, on ne peut pas dire que nous sommes des concurrents. Nous sommes sur un même marché, c'est-à-dire la réparation automobile, mais étant associatif, nous sommes sur le... non concurrentiel, nous sommes non marchands de par notre statut associatif.
Ouais, ouais. Mais vous proposez par exemple le même service qu'un garage dit classique, donc c'est à ce niveau-là que peut se jouer la concurrence.
On est sur le même créneau de réparation, mais la concurrence n'existe pas, donc on l'a fait quand même un argument qui a été mis en avant lors de la création, à savoir que les personnes qui viennent nous voir ne viendront jamais pour le moment dans les garages dits classiques, parce que financièrement, ils n'ont pas les moyens.
Ce n'est pas le même client, en fait, c'est ça, aux clients, adhérents et clients.
C'est pour ça qu'adhérents, c'est une association, clients, c'est une entreprise. Les garages classiques ont d'autres charges, d'autres frais, d'autres compétences également. Donc, on n'est pas sur le même créneau de réparation finale, si vous voulez. Mais il faut quand même faire attention. Et les gens, bon, s'ils reviennent en fortune, ils pourront aller dans les garages classiques. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas.
Mais vous avez quand même les mêmes responsabilités techniques qu'un garage classique.
Mais évidemment, nous avons les mêmes responsabilités techniques. Donc l'argument, si vous voulez, qui a été de poids, c'est de dire nous mettons les voitures en sécurité. Et quand on parle sécurité, je ne pense pas que quelqu'un puisse dire bon, on laisse faire.
Merci beaucoup, Claude, pour cette intervention et pour ces explications. On peut vous joindre facilement ? On vous trouve facilement au Garage pour tous ?
Oui, on nous trouve facilement. On est au 40 bis chemin du Pratelon. C'est le quartier des Minimes. Et puis, bon, on peut nous voir le bouche à oreille. Et je voudrais quand même saluer les bénévoles qui sont là au quotidien et qui permettent au garage de fonctionner.
Merci à vous. On vous trouve également sur le net, le Garage pour tous.
Oui, c'est garage pour tous, tout attaché, @gmail.
Voilà, pour l'adresse. Pour l'adresse, et sinon, Garage pour tous, vous
sinon,
tapez.
Sinon, Garage pour tous.
C'est facile
voilà,
à trouver.
Il y a les explications.
Merci à vous, merci Jean-Marie Fehrenbach pour votre intervention brillante dans Le Goût d'Entreprendre. Vous souhaitez nous joindre et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et à nous écrire. N'hésitez pas, c'est très simple. entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'Entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.